rapport de 91. Tu peux me le refiler?
Les deux exemplaires qu'avaient Blomqvist et sa sœur ont été perdus.
Perdus?
Volés.
J'ai toujours le premier rapport de 91. J'en avais fait une copie pour Bolinder.
Si tu laisses fuiter ce rapport, non seulement tu seras viré, mais en plus tu seras accusé de faute professionnelle.
Elle a besoin de ceci.
C'est quoi ce truc sous mon oreiller? Mon palme?
Vous pouvez le lui faire passer.
Ça, c'est signé Blomqvist.
Je sais bien que la CEPO n'a pas toujours eu une conduite exemplaire. Mais de là à se comporter comme une organisation criminelle.
Si ces fumiers s'attaquent à Salander encore une fois, j'alerte les médias.
Ça sent pas bon, tout ça.
Millennium 3. La reine dans le palais des courants d'air, de Stieg Larsson. Traduction, Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation, Sophie Bocquillon. Réalisation, Sophie Haute-Picon.
Ah tiens, on va aller là-bas, ce sera plus calme.
Sixième épisode.
Alors, comment va madame la rédactrice en chef du Morgan Posten?
Lessivée. Et pas très optimiste quant à son avenir. Et comment va le grand Michael Blomqvist?
Il a de quoi s'occuper. Une bière, s'il vous plaît.
Et une pour moi aussi, sans alcool. Comment va Lisbeth?
Elle fait partie de ce qui m'occupe.
Tu peux me raconter, tu sais. Tu peux toujours me faire confiance.
Excuse-moi, c'est juste que tout est si confus. Je sais pas par quel bout commencer. Parle-moi déjà du Morgan Posten.
Pour tout te dire, c'est très difficile. Les actionnaires veulent virer des journalistes alors qu'on est déjà en sous-effectif. J'ai plusieurs collaborateurs qui n'attendent qu'une chose, que je disparaisse pour pouvoir continuer à exercer leur petit pouvoir selon leurs petites habitudes. Et depuis quelques jours, je reçois des mails d'insultes.
Ah bon, quel genre?
Ah, du genre, sale pute, tu vas prendre un tournevis dans le cul, tu ferais mieux de te barrer.
Sympa.
C'est pas tout. Merci.
Merci.
Quelqu'un envoie des mails depuis ma boîte pour harceler sexuellement une jeune pigiste du journal.
Tu as une idée de qui pourrait faire ça?
Les mails sont envoyés d'une adresse trafiquée, mais via le serveur du journal. C'est certainement quelqu'un du journal.
Michael, tu me manques. Je voudrais qu'on aille chez toi. Je suis trop fatiguée pour faire l'amour, mais j'aimerais bien me blottir contre toi et dormir dans tes bras.
J'aimerais bien, Erika, mais mon appartement n'est plus très fréquentable.
Tu fais plus le ménage?
Si c'était que ça. Il est truffé de micros et visité régulièrement.
Ah bon?
Apparemment, j'intéresse pas mal de monde en ce moment. J'ai installé des caméras de surveillance pour essayer de coincer mes ennemis invisibles.
T'es sérieux?
On ne peut plus sérieux. Mais c'est pas pour ça que je voulais absolument te voir.
Vas-y, je t'écoute.
Henri Cortez a levé un lièvre. Une entreprise suédoise. Sveabig possède une filiale du nom de Vitavara. Mmh. Et cette filiale est basée au Vietnam, où elle fabrique des cuvettes de toilettes qu'elle vend très cher avec le label Made in Sweden. En fait, Vitavara sous-traite à Fongso Industrie. Et Fongso Industrie figure sur la liste des entreprises qui exploitent de façon illégale le travail des enfants et des prisonniers politiques.
La liste de l'ONU?
La liste de l'ONU. Mmh. Mais attends la suite. Sveabig a pour président et actionnaire majoritaire Borgjø, le président du conseil d'administration du Morgan Posten.
Quoi?
Celui-là même qui t'a recruté.
Oh. Donc, si je comprends bien, la première chose que fait Millennium après mon départ, c'est d'enquêter sur mon nouvel employeur?
Pas du tout, c'est une pure coïncidence. Henri travaillait sur Sveabig depuis un moment.
Et tu sais tout ça depuis quand?
Cet après-midi. Et ça me contrarie autant que toi. Oh.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Publier. On ne peut pas faire une exception parce que c'est ton patron.
Vous êtes sûr de vous?
Je t'ai apporté une copie du dossier.
Vous comptez publier quand?
C'est pour ça que je voulais te voir. Il faut qu'on prenne une décision, nous deux.
Nous deux?
Cet article était destiné au numéro de juin. Je l'ai déplacé en août. Mais si tu as besoin de plus de temps, je peux le repousser encore. Prends le dossier et rentre chez toi réfléchir. On en reparlera pour élaborer une stratégie possible.
Je rentre chez moi. Je suis épuisée.
Blague, t'es là?
Salut, Wesp. Alors, comment c'est l'hôpital de Solgrenska?
Blanc. Chiant. J'ai besoin de ton aide.
Ça alors? Ça doit être sérieux?
Goran Martensson, domicilié à Vellingby. J'ai besoin d'avoir accès au disque dur de son ordinateur.
Ok.
Tout le matériel doit être transféré à Mikael Blomqvist à Millennium.
Je m'en occupe.
Big Brother surveille le téléphone de Super Blomqvist et probablement ses mails. Tu envoies tout sur une adresse Hotmail.
Ok.
Si je suis pas disponible, Blomqvist aura besoin de ton aide. Il faut qu'il puisse te contacter.
Ah.
Il est un peu carré, mais tu peux lui faire confiance.
D'accord.
Je donne 30 000.
C'est dans tes moyens?
C'est dans mes moyens.
Ça roule pour moi.
Je pense qu'on va avoir besoin de Trinity. Tu pourrais le faire venir en Suède.
Pour faire quoi?
Ce qu'il sait faire le mieux. Écoute téléphonique. Piratage informatique. Je lui paye les honoraires standards, plus les frais.
Plus les frais.
Ok.
Je suis désolé, inspecteur Faste, mais ça ne va pas être possible.
Je ne comprends pas, docteur. Je croyais que Salander était rétabli. Je suis venu à Göteborg pour l'interroger, mais aussi pour préparer son transfert dans une cellule à Stockholm.
Je regrette, mais son état vient de s'aggraver. Je dois la garder, même si j'aurais préféré qu'elle parte. On n'a pas assez de lit.
Et si elle simulait?
Impossible. Hier, elle a eu une violente migraine et elle a été prise de vomissements. Ce matin, elle avait beaucoup de fièvre, difficile à simuler. Après l'intervention chirurgicale très lourde qu'elle a subie, on ne doit rien négliger.
Elle a chopé un virus?
Je ne pense pas. Peut-être une réaction à un médicament. Ou, plus embêtant, des complications liées à l'opération. Il est trop tôt pour le savoir. Nous avons fait faire un scan cérébral. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie plus sombre, ici. Juste à l'endroit de la blessure. Ça peut être une petite hémorragie. Mais comme je vous le disais, il est trop tôt pour le savoir.
Bon. Il se passe quoi, alors?
Pour la patiente, repos complet, interruption de la rééducation et surveillance maximale.
Et qu'est-ce que je dis au procureur?
D'attendre.
La date du procès est fixée au mois de juillet.
Si tout se passe bien, elle sera sur pied.
Monsieur Edklint, vous êtes en train de me dire qu'il existerait au sein de la CEPO un groupe qui agirait en dehors de ses missions institutionnelles et qui mènerait des activités criminelles?
C'est bien ça, monsieur le Premier ministre.
Et vous vous adressez à moi parce que vous n'avez pas confiance en la direction de la CEPO?
Je voulais m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une action dont vous auriez été informé et que vous n'auriez pas divulgué pour des raisons de secret défense. Je ne tiens pas à mettre en danger la sécurité de l'État.
Non. À ma connaissance, il n'y a pas de mission de cette nature en cours. Qu'en pense le ministre de la Justice?
Je n'ai rien vu dans aucun rapport de la Sûreté qui pourrait étayer cette version.
Le journaliste Mikael Blomqvist pense qu'il s'agit d'un groupe restreint constitué uniquement de membres ou d'ex-membres de la CEPO. Ils auraient comme point commun d'être mêlés à l'affaire Salatchenko.
Je n'ai jamais été informé de cette histoire de transfuge russe qui aurait déserté à l'époque où Feldin était Premier ministre.
J'ai du mal à croire que Feldin aurait oublié de mentionner cette affaire à son successeur.
Vous n'ignorez pas que certains de mes prédécesseurs à la CEPO n'ont pas vu d'un bon œil l'arrivée des sociodémocrates et d'Olof Palme à la tête du gouvernement.
J'imagine qu'il sera difficile de tenir les médias à l'écart de tout ça.
En effet.
Mikael Blomqvist et Millennium vont publier. Nous devons réagir rapidement.
Qu'est-ce que vous proposez?
Eh bien...
Vous permettez, monsieur le Premier ministre?
Je vous en prie.
Rosa Figuerola, je tiens d'abord à vous assurer que je suis fière d'appartenir à la CEPO. Mais si personne au gouvernement n'est au courant de cette opération, cela veut dire que des fonctionnaires se livrent à des activités criminelles. La première chose est de savoir comment cela a été rendu possible et qui est à la tête de cette opération. Mais surtout, comment est-elle financée? Ce genre d'opération doit coûter plusieurs millions de couronnes par an. J'ai examiné le budget de la Sûreté et je n'ai rien trouvé qui pourrait coller.
Que suggérez-vous?
Il ne faut pas étouffer l'affaire. Ce serait le meilleur moyen d'être suspecté de complicité.
Madame Figuerola, mon gouvernement n'a pas l'intention de couvrir d'éventuelles activités criminelles de ces institutions.
Ce qui est compliqué pour nous, à la protection de la Constitution, c'est que pour élucider cette histoire, il nous faudrait mener des actions contraires aux règles que nous sommes censés garantir. Il nous faudrait votre soutien.
Vous l'avez.
En tant que Premier ministre, vous pourriez nous délivrer un ordre de mission exceptionnel et les autorisations nécessaires pour enquêter plus avant.
Vous l'aurez. Monsieur Clint, vous serez le seul responsable de cette enquête et vous choisirez vous-même vos collaborateurs. Et si vous avez la moindre preuve d'une activité criminelle, vous la transmettrez au ministère public.
Très bien.
Excusez-moi, et pour Lisbeth Salander ?
Si elle a été victime des abus judiciaires dont parle Millennium, nous veillerons à ce qu'elle soit dédommagée. Et surtout, à ce qu'elle ne soit pas victime d'un nouvel abus de pouvoir.
Mais le gouvernement ne pourra en aucun cas intervenir dans une action judiciaire en cours. Ce serait contraire à la loi.
C'est pourquoi Salander doit passer devant le juge. Si elle devait perdre son procès, le gouvernement pourrait ordonner au ministère public une nouvelle instruction.
Monsieur le Premier ministre, je vous rappelle que cela ne sera possible que si elle est condamnée à une peine de prison. Si la justice conclut à sa folie et décide de son internement psychiatrique, le gouvernement ne pourra rien pour elle.
T'es là, Wasp ?
Yes, Blague. T'as du nouveau ?
Trinity est arrivé à Stockholm. Il a réglé son compte à Teleborian en un temps record.
Explique.
Teleborian joue au tennis 2 fois par semaine. 2 bonnes heures. La dernière fois, il a laissé son ordi dans sa voiture, garée sur le parking.
Cool.
Trinity a neutralisé l'alarme de la voiture et a sorti l'ordi. 30 minutes pour tout copier et installer le logiciel espion Asphyxia. Je t'envoie l'adresse du serveur où il stocke le disque dur de Teleborian.
Génial. Merci, Plague. J'y vais tout de suite. Jonas. C'est qui ce mec à qui t'écris pour parler de ma santé, Teleborian ? Oh ! Oh putain ! Je m'en doutais. Enfoiré.
Merci d'être venu, Michael.
De rien.
Si on apprend que je t'ai rencontré, je peux dire adieu à ma carrière de flic. Mais j'ai pas le choix. J'ai besoin de toi.
Tu peux me faire confiance, qu'est-ce qui se passe ?
Merci pour le café. Yerker, un de mes collègues, est allé voir l'ancien Premier ministre Feldin. Son père le connaissait. Il y est allé à titre privé pour parler de Salatchenko.
Qu'est-ce que ça a donné ?
Au début, Feldin n'a rien dit. Yerker lui a raconté l'histoire de l'internement de Lisbeth Salander. Il a été très choqué. Il s'est souvenu qu'au moment de sa prise de fonction comme Premier ministre en 1976, le directeur de la CEPO, Hans von Trottinger, et un de ses collègues sont venus le voir. Il lui racontait qu'un espion soviétique venait de passer à l'ouest et s'était réfugié en Suède. Comme il ne savait pas comment gérer cette situation et qu'il venait d'arriver, Feldin a écouté les suggestions de la CEPO. Il a écrit une lettre qui leur donnait la charge exclusive de cet espion dont il ne connaissait même pas le nom. Et il a promis le silence.
Salatchenko.
Mais Feldin avait quand même pris ses précautions. Il avait insisté pour qu'un secrétaire d'État soit mis dans la confidence et devienne un intermédiaire entre le cabinet du gouvernement et la CEPO pour tout ce qui concernait ce dossier. Cet homme a 63 ans aujourd'hui. Il est ambassadeur de Suède aux Pays-Bas. Il s'appelle Bertil Janrid.
Bertil Janrid.
Feldin a confié une lettre pour lui à Yerker. Tiens, le mieux c'est que tu la lises.
Cher Bertil, le secret qui nous a unis pendant mon mandat au gouvernement risque d'éclater au grand jour. Si le premier concerné vient de mourir et ne risque plus rien, d'autres personnes peuvent être sérieusement compromises. Il est d'une importance capitale que nous ayons la réponse à certaines questions. La personne porteuse de cette lettre travaille de façon officieuse et elle a toute ma confiance. Je te demande d'écouter son histoire et de répondre à ses questions. Je sais que je peux compter sur tes qualités de discernement.
la personne porteuse de cette lettre. Il fait allusion à Yerker.
Non, Yerker a demandé à Feldin de ne pas mentionner son nom. Il lui a bien précisé qu'il ne savait pas qui irait le voir aux Pays-Bas. Nous ne sommes pas habilités à interroger l'ambassadeur. Toi, en revanche, tu peux le faire.
Très bien, j'irai.
Il y a une contrepartie. Information contre information. On veut savoir ensuite tout ce que Yann Reed t'aura raconté.
Pas de problème. Attends. Tu as dit que Feldin avait eu la visite de deux hommes de la CEPO. L'un était Hans von Rottinger et l'autre
Evert Gulberg.
Michael, si je joins des dossiers trouvés sur le disque dur de Téléborian, prépare-toi au pire. 8756 photos pédophiles. Je me souviens maintenant de toutes ces nuits à Saint-Stéphane, quand Téléborian venait dans ma chambre pour m'observer en silence. Il ne m'a jamais touchée. Mais au fond de moi, j'ai toujours su. J'ai cherché à oublier. J'ai tout refoulé. J'aurais dû m'occuper de ce salopard depuis longtemps.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Michael Blomqvist. J'ai rendez-vous avec monsieur l'ambassadeur.
Oui, il vous attend. Suivez-moi.
Oui.
Michael Blomqvist.
Faites entrer.
Vous pouvez entrer.
Merci.
Monsieur Blomqvist, je vous en prie, asseyez-vous.
Merci de me recevoir, monsieur l'ambassadeur. Alors, voici la lettre qui vous est destinée. Elle a été écrite par l'ancien Premier ministre Feldin.
Je ne peux pas en parler.
Je pense que si. Je ne vous demande pas de me révéler des secrets militaires que Salatchenko aurait éventuellement pu transmettre à la CEPO.
Je ne connais aucun secret. Je ne savais même pas que son nom était Salatchenko. Je ne le connaissais que sous son nom de code.
Qui était ?
On l'appelait Ruben. Mais je vous répète que je ne peux pas en parler. Je n'ai rien à voir là-dedans.
Monsieur l'ambassadeur, je n'ai pas l'intention de salir votre réputation, ni celle de Monsieur Feldin.
Monsieur Feldin est un homme intègre.
Je n'en doute pas une seconde. Mais que vous le vouliez ou non, vous avez une responsabilité dans cette affaire. Alors vous avez deux possibilités. Vous vous réfugiez derrière le secret défense, et les médias vont vous tirer dessus à boulets rouges, ou dire ce que vous savez, et vous apparaîtrez comme un fonctionnaire intègre qui dénonce une situation intolérable.
C'est du chantage.
Si vous me dites ce que vous savez, je vous donne la garantie que je ne publierai pas votre nom.
Allons dans les jardins de l'ambassade.
Le Premier ministre m'avait informé de cette rencontre qui a eu lieu en octobre 1976. Il trouvait toute cette affaire extrêmement délicate. Le plus grand secret militaire de la Suède.
Ils se sont revus souvent après cette première rencontre ?
Jamais. Le Premier ministre ne voulait pas être mêlé à cette histoire. Il s'est assuré que je sois choisi comme intermédiaire entre lui et ceux qui avaient la charge de Ruben. Enfin, de Salatchenko. J'ai dû lui promettre que je ne parlerai de ça à personne. Et j'ai tenu parole.
Le Premier ministre avait été en relation avec Evert Gulberg et Hans von Rottinger ?
Oui.
Vous étiez en contact avec eux, vous aussi ?
Oui, avec un autre homme aussi.
Qui s'appelait comment ?
Oh, c'était il y a si longtemps, je ne m'en souviens plus.
Faites un effort.
Ah, oui. Clinton. C'est ça. Clinton, comme l'ancien président des États-Unis.
Prénom ?
Frédéric Clinton.
Et vous les avez rencontrés souvent ?
Une dizaine de fois pendant mon mandat, Mais tout ce que j'ai appris, c'est que Salatchenko coopérait et que ses informations étaient très précieuses.
Quels étaient vos lieux de rencontre ?
Il y en avait plusieurs. À chaque rencontre, on décidait de la date et du lieu de la suivante.
Et qui vous a succédé après le changement de gouvernement ?
Comment ça ?
Quand Feldin a démissionné. Qui a pris votre place ?
Aucune idée.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de passation pour ce dossier ?
Non.
Et vous n'avez pas fait de rapport ?
Non, non, tout cela était top secret. Je n'étais même pas autorisé à prendre des notes.
En clair, ça voudrait dire qu'aucun gouvernement après le vôtre n'a été mis au courant qu'il y avait un agent soviétique passé en Suède.
C'est bien possible.
Oui.
Ed Clint, je crois qu'on tient quelque chose.
Rosa, assieds-toi.
Evert Gulberg.
Oui, eh bien.
L'un de nos enquêteurs a parlé avec Marcus Ackermann qui dirige l'enquête sur l'assassinat de Salatchenko. Ackermann dit que la CEPO a contacté la police de Göteborg 2 heures seulement après l'assassinat pour l'informer des lettres de menace postées par Gulberg.
Ils ont fait vite.
Oui, un peu trop vite même. La lettre adressée au ministre des Affaires européennes n'a été enregistrée par le ministère que le lendemain. Autrement dit, la CEPO a envoyé le fax d'une lettre qui n'était pas encore parvenue à son destinataire.
Nom de Dieu.
C'est un employé à la protection des personnalités qui a faxé les lettres.
Son nom ?
Je pense pas qu'il soit dans le coup. Simple courroie de transmission. Les lettres avaient été déposées sur son bureau le matin, et peu après l'assassinat, on lui a ordonné de contacter la police de Göteborg.
Qui a donné cet ordre ?
L'assistante du secrétaire général de la CEPO.
Si je te suis bien, ça confirmerait que la CEPO est mêlée à l'assassinat de Salatchenko.
Pas forcément impliquée, mais au courant, oui. La question est de savoir qui a la CEPO.
Le secrétaire général.
Forcément. Mais je commence à me demander si le groupe qui avait en charge Salatchenko n'est pas une section à part, extérieure à la CEPO.
Qu'est-ce qui te fait croire ça ?
Martensson. Il a été déchargé de ses fonctions au service de protection des personnalités pour travailler en solo. Nous l'avons surveillé 24 heures sur 24 toute la semaine. Il n'a eu de contact avec personne à la CEPO.
Je crois que j'ai trouvé Evert Gulberg.
Entre, Berglund.
Regardez bien cette photo. C'est celle du procès du légendaire colonel espion Wennerström. Dans le fond, vous voyez 3 personnes. Danielson, Gulberg et Franke.
Wennerström et Evert Gulberg de la CEPO.
Non, la CEPO a été créée 4 mois après que cette photo a été prise. À ce moment-là, il faisait encore partie de la police secrète de l'État.
Je crois que l'heure est venue d'avoir un deuxième entretien avec le ministre de la Justice.
Au fait, Millennium est sorti aujourd'hui. Pas un mot sur l'affaire Salatchenko.
Ça nous laisse 1 mois avant la sortie du prochain numéro. Mais il faut qu'on s'occupe de Blomqvist. Il est aussi dangereux qu'une grenade dégoupillée. On ne peut pas le laisser faire son enquête en électron libre. Il faut qu'on sache ce qu'il sait.
C'était Millennium 3, La reine dans le palais des courants d'air, de Stieg Larsson. Traduction, Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation, Sophie Bocquillon. 6e épisode, avec Christophe Raymond, Anne Kodja, Marie Payen, Nicolas Gonzalez, Johanna Nizar, Sava Loloff, Claire Dumas, Maxime Dambrun, Philippe Béraudeau, Jacques Poiterrier, Emmanuel Vérité, Jean-Gabriel Nordman, Antoine Doignon, Michel Baladi. Bruitage, Céline Bernard. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigé par Didier Benetti. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Millennium est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs. La musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.